Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier épisode de notre série sur les communs ou le commun, une notion à la croisée des disciplines qui nous incite à revenir au collectif et à replacer la démocratie, l'horizontalité au cœur des différentes sphères de la société. Aujourd'hui, c'est la mise en partage du travail que nous allons examiner. Le travail serait-il lui aussi un bien commun ? Alors que certains économistes prédisent sa disparition et d'autres sa nécessaire mutation, que nous apprend l'approche par les communs ? Pourrait-elle permettre de retrouver le sens perdu du travail et d'inventer peut-être une nouvelle justice sociale ? C'est ce que l'on va tenter de voir dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Le commun est-il l'avenir du travail ? On en parle avec le philosophe Pierre Dardot, chercheur à l'université Paris-Nanterre, auteur notamment de Commun, essai sur la révolution du 21e siècle à la découverte, et Noémie Degrenier, co-directrice générale de la coopérative d'activité et d'emploi Coopanam. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Pierre Dardot et Noémie Degrenier, bonjour.
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 Un grand merci d'être avec nous. Alors, on a vu cette semaine qu'on pouvait penser le commun à travers de nombreux domaines de la vie, l'agriculture, le numérique, l'environnement. Aujourd'hui, c'est le travail qui nous intéresse. Et d'abord, cette question très large, en quoi, selon vous, la théorie des communs offre-t-elle une nouvelle façon de penser le travail, Pierre Dardot ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une théorie unifiée des communs, mais en tout cas, on peut se référer en effet à certaines acceptions ou à certaines significations que le terme porte. Et généralement, ça pointe en direction d'expérimentations qui sont de formes très diverses et qui aujourd'hui ont tendance à se diffuser de plus en plus largement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est de réfléchir justement à partir des expérimentations en cours, non pas de surimposer une théorie toute fabriquée à ce qui est en train de se passer, mais de voir comment de nouvelles formes émergent. Et justement, je pense que la théorie des communs, comme vous venez de l'appeler, peut apporter un éclairage à cette question-là, dans la mesure où il n'y a aucune raison pour que l'organisation du travail elle-même, l'organisation de la production, ne soit pas reconnue comme un commun, considérée comme un commun et instituée comme un commun. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est justement la dimension de l'institution. Les communs dans la production, les communs dans l'activité de travail doivent être justement institués. Et d'ailleurs, c'est pas simplement un devoir être abstrait. Il y a des lieux, il y a des espaces dans lesquels, justement, il y a de plus en plus de parts pour cette institution du commun dans l'organisation du travail, ou plutôt cette institution de l'organisation du travail comme un commun. Je préfère dire ça comme ça.
Cette institution de l'organisation du travail comme un commun, cette offre une nouvelle vitalité à cette pensée sur le travail, Noémie Degrenier.
Oui, il me semble que c'est au croisement entre la théorie des communs et ces expérimentations qu'on peut voir un petit peu partout, il y a vraiment des choses intéressantes. Il me semble que la manière de penser les communs permet de renouveler la pensée du faire ensemble et ces expérimentations, elles s'inscrivent bien là-dedans. Il y a aussi une pensée d'un au-delà de la propriété, pour reprendre la formule de Benoît Boritz, qui me semble vraiment intéressante. Et on sait bien que le travail dans un système capitaliste, il est lié aussi à cette conception de la propriété. Donc comment est-ce qu'on pense le travail au-delà de cette propriété, avec un système de valeurs et d'institutions qui sortent réellement de ce prisme-là ? Il me semble que c'est très intéressant. Et il y a aussi une autre question, puisqu'il y a les questions du faire ensemble, du contenu du travail, mais il y a aussi la place qu'a le travail dans la société. Et derrière le travail, il y a des revenus et il y a un système de protection sociale qui s'est organisé autour de ça. Et il me semble que là aussi, il y a des communs à réinventer, à se réapproprier et à réinventer, puisque c'est un enjeu collectif extrêmement important.
Alors, on va revenir à toutes ces expérimentations, mais d'abord, il faut peut-être poser un constat, le constat de la crise que traverse actuellement le travail, crise qui prend différentes formes, Pierre Dardot, et qui justifie cette nécessité, justement, de repenser le travail.
Ouais, la crise ne date pas d'hier, elle prend aujourd'hui des formes extrêmement aiguës, mais On peut dire, en suivant les indications données par certains sociologues justement du travail, qu'il y a la mise en place en 1990 d'un nouveau système de management et de production. On appelle ça le lean management, c'est-à-dire le management maigre ou la production maigre. Et ça va articuler trois caractéristiques fondamentales. Le premier, c'est que on a un système d'organisation qui est commandé par un impératif, celui du juste à temps. Donc c'est le flux continu, sans interruption, il n'y a plus de stock. On fait la chasse au gaspillage dans tous les domaines, particulièrement évidemment les économies de temps de travail. Et puis il y a une deuxième caractéristique ou un deuxième trait qui est la mise en place de collectifs qui sont assez artificiels. On reviendra sur la notion de collectif, mais on parle de teamwork. Alors c'est une expression assez difficile à traduire, mais il faudrait surtout pas traduire par travail en équipe. C'est un travail, un travail en équipe et pas un travail d'équipe. Je veux dire par là que ce sont des gens qui sont mis côte à côte de façon artificielle pour des besoins qui sont justement ceux de la continuité à tout prix du flux de la production. Mais ce ne sont pas des gens... Par exemple, avant, il y avait des collectifs qu'on pouvait considérer comme étant affinitaires, qui regroupaient les gens par affinité. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est des collectifs qui sont chargés de prendre en charge, non pas l'organisation du travail directement, mais à partir d'indications ou d'objectifs qui sont en général en constante augmentation. Ce sont des collectifs qui sont chargés, de responsabiliser l'individu qui est membre du groupe, en faisant en sorte que justement, ça soit le groupe qui exerce une espèce, non pas de contrainte directe, non pas de commandement hiérarchique, mais une façon finalement d'exercer une pression sur l'individu. C'est peut-être moins pénible d'un certain point de vue que la relation hiérarchique traditionnelle, mais ça peut être extrêmement, ça peut causer des ravages subjectifs considérables. Et puis il y a un troisième trait qui est lié, qui est justement le contrôle des salariés par l'évaluation individuelle du comportement du salarié. Et ça c'est très important parce que ça vise à faire intérioriser les normes de l'entreprise par les salariés. Et donc ça crée quand même un système qui est responsable par beaucoup d'aspects de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la perte de sens du travail, c'est-à-dire la crise qui affecte la relation du salarié avec à son entreprise, à son propre travail, à sa propre activité, la relation du travailleur à sa propre activité.
C'est ce que la sociologue Danielle Linhart explique, ce travail moderne qui aurait attaqué le lien qui unit le sens du travail à la société et cette perte de sens. David Graeber en parlait lundi dans la grande table d'Olivia Gesbert. On assiste à une multiplication, dit-il, des fameux bullshit jobs. Selon vous, on a individualisé à l'extrême les travailleurs, Noémie de Grenier ?
Oui, et c'est vraiment tout ce que dit Pierre Dardot a des implications concrètes extrêmement banales aujourd'hui. Hein. On a énormément de gens qui racontent un quotidien de travail extrêmement compliqué dans lequel le processus d'individualisation à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur des entreprises avec cette poussée vers le micro-entrepreneuriat qui s'appuie aussi sur un chômage de masse, hein, comme si on faisait changer les gens de statut et on résolvait les problèmes comme par un coup de baguette magique. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai. Mais du coup, cette individualisation telle qu'elle est décrite, hein, elle a une très très forte responsabilité là-dedans. Et on voit par exemple dans les gens qui viennent rejoindre la coopérative ou qui s'intéressent au modèle coopératif de manière générale, qui rejoignent des coopératives d'activité d'emploi ou qui viennent dans nos informations collectives, on retrouve exactement ces mêmes constats, c'est-à-dire la perte de sens, la difficulté à exercer son activité dans de bonnes conditions, le durcissement des modes de management qui donne effectivement un sentiment de dépossession totale et avec des vrais problèmes derrière, très concrets, hein, de multiplication de problèmes de santé, un monde du travail qui est toujours plus dur et toujours plus précarisant.
Et tout cela dans un contexte macroéconomique qu'il faut rappeler, c'est aussi la mondialisation, la mise en concurrence croissante des travailleurs au niveau mondial, qui peut expliquer la précarisation et les nouvelles souffrances au travail, et évidemment aussi le pouvoir des syndicats qui s'est largement affaibli.
Oui, c'est sûr qu'il faut, et je pense que le mouvement coopératif a un vrai rôle à jouer là-dedans. Il faut reconstruire des forces collectives qui parlent pour le monde du travail et qui permettent de s'exprimer à la fois dans des expériences, donc dans des projets d'entreprise, de collectifs de travail de manière très concrète, et aussi comme un mouvement d'idées qui revendique haut et fort la démocratie au sein de l'entreprise, comme aussi un remède à la perte de sens.
Et alors justement, cette perte de sens, ces nouvelles souffrances au travail, c'est ce qui explique aujourd'hui l'émergence de nouvelles aspirations des travailleurs. Il y a de plus en plus un désir d'autonomie et un désir de retrouver justement ce sens perdu, Pierre Dardot.
Oui, tout à fait. Il y a une particularité des demandes ou des aspirations qui se font jour aujourd'hui qui doit être soulignée. C'est que c'est pas du tout la même chose que ce qui avait cours pendant l'époque ou l'ère fordiste, hein, puisque en général, on était habitué à occuper un poste de façon fixe, en tout cas très très durable. Et puis, il y avait des choses qui se construisaient autour de cette idée-là, alors que maintenant, les choses ont considérablement changé. Il y a une aspiration à conjuguer deux choses qui pouvaient sembler contradictoires auparavant, et qui le sont de moins en moins, dans l'esprit en tout cas de beaucoup de travailleurs et de salariés. C'est premièrement l'aspiration à une autonomie, et deuxièmement l'aspiration à une protection sociale, qui justifie le fait que de plus en plus de salariés et de travailleurs cherchent justement à articuler les deux, protection mais en même temps autonomie. Pas l'autonomie sans la protection et pas non plus l'inverse. Donc c'est pas, il n'y a pas de nostalgie du paternalisme bureaucratique, de l'État-providence d'une certaine époque. Tout ça, c'est derrière nous. Et il y a des aspirations qui sont nouvelles et dont il faut tenir compte de façon extrêmement précise.
Alors même que souvent, on entend justement un antagonisme entre la sécurité et la liberté, comme s'il fallait précisément choisir. Et Noémie de Grenier, dans ses aspirations, on voit aussi une aspiration à une meilleure articulation des temps de vie, avec une plus grande valorisation du temps à soi aussi, peut-être comme un lieu d'expression de la créativité, par exemple.
Oui, en fait, c'est tout à fait lié à la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus forcément qu'un travail vienne dicter ses horaires et sa manière de vivre. Et y a dans l'aspiration à l'autonomie, il y a bien ça. Et on a besoin d'un collectif, en fait, pour être libre, pour être autonome. Il n'y a pas du tout d'antagonisme entre... Il y a une vraie critique de l'individualisation aussi parce que plus on est seul et finalement plus on est soumis aux forces du marché, aux forces qui nous dominent, alors qu'ensemble on arrive à reconstruire des rapports de force pour préserver nos vies privées, pour préserver le travail qui n'est pas forcément rémunérateur qu'on peut faire dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région. Il y a tout un ensemble de choses qui se construisent finalement parce qu'on est plusieurs, parce qu'on réfléchit, parce qu'on revendique ensemble un certain nombre de droits.
Alors quel problème justement ces nouvelles aspirations peuvent poser ? Eh bien la première, vous l'avez dit, c'est la précarité que l'autonomie peut entraîner.
Ces travailleurs indépendants sont relativement moins protégés, déjà parce qu'ils n'ont pas d'assurance chômage, alors qu'elles sont dans ces parcours professionnels quand même un peu instables. Elles sont moins protégées en termes d'assurance maladie. Les auto-entrepreneurs ne sont pas couverts, par exemple, la première année en cas d'accident du travail. Ils n'ont pas d'indemnité journalière, donc elles ont moins de protection. Elles ont moins de protection aussi parce qu'elles n'ont pas de salaire minimum, elles n'ont pas de congés payés, donc il n'y a pas que la protection sociale au sens strict. Et effectivement, ça bénéficie aux employeurs qui n'ont pas de frais de gestion de la main-d'œuvre, qui n'achètent pas le matériel. Uber n'a acheté aucune voiture, Tekitizi n'a acheté aucun vélo. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté de la part des entreprises d'un travail flexible, moins cher, etc. Mais je pense aussi que ce n'est pas qu'un dévoiement d'un objectif politique qui était tout autre. C'est-à-dire que les équipes autour d'Hervé Novelli quand même revendiquaient le fait de vouloir sortir aussi un petit peu du droit du travail.
Alors rappelons qu'il était Hervé Novelli, secrétaire d'État au ministre, je ne sais plus, à l'époque.
Secrétaire d'État, oui. Aux petites entreprises, tourisme, etc., qui est quand même un peu le grand artisan politique de cette mesure, avec d'autres. Et je pense quand même que c'est peut-être un danger de le voir juste comme un effet pervers, ce contournement. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de sortir d'un modèle social jugé trop lourd, avec un droit du travail trop contraignant. Et que ce n'est pas qu'un dévoiement quand les entreprises font ça. Je pense que ça correspond en partie à un objectif politique.
La sociologue Sarah Abdelnour dans l'émission du Grain à Moudre sur France Culture, c'était le 16 mars 2017. Ce recours croissant des entreprises au statut d'entrepreneur correspond aussi à un objectif politique, Pierre Dardot, comme nous le dit Sarah Abdelnour.
Alors, objectif politique, tout dépend de ce qu'on entend exactement par là, mais en effet, il y a un recours de plus en plus massif à des formes d'auto-entrepreneuriat. Ça a été développé d'une manière assez volontariste d'ailleurs, et puis sous Sarkozy, ça a été dit d'une manière ouverte. L'objectif de l'auto-entrepreneuriat, c'est de diffuser la culture de l'entreprise au sein de la société, à tous les niveaux, donc l'objectif politique était clairement affiché. De ce point de vue-là, il n'y avait pas de mystère. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que il y a en effet des individus qui ont recours à l'auto-entrepreneuriat, qui en même temps vivent une situation qui n'est pas toujours très facile à gérer, parce que Certes, ce sont des travailleurs individuels. Est-ce qu'ils sont véritablement indépendants? Ils ont des donneurs d'ordre. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses pour satisfaire la demande des donneurs d'ordre. Ils sont prêts à prendre beaucoup sur leur temps, justement, pour satisfaire cette demande. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, mais ça a été dit de manière très rapide, que ce sont des gens qui payent leur propre formation. Il faut comprendre ça. C'est souvent quelque chose qui est complètement passé sous silence et on est amené à célébrer, à idéaliser comme ça les vertus de l'auto-entrepreneuriat. Il faut voir que la réalité est beaucoup plus difficile et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, enfin il y a des gens en tout cas qui essaient de conjuguer cette autonomie qui n'est pas nécessairement l'indépendance de l'auto-entrepreneur et puis d'autre part la protection sociale. Et ça se voit même pour des travailleurs, juste un dernier mot, ça se voit même pour des travailleurs qui sont des auto-entrepreneurs dans des plateformes, hein, comme par exemple Deliveroo, puisque ce sont des gens qui ne sont pas dans le salariat, pas simplement pas dans le salariat traditionnel, ils ne sont pas dans le salariat tout court, mais il y a des mouvements de type plateforme coopérative qui tendent justement à leur permettre de bénéficier aussi d'une protection ou de droits sociaux élémentaires.
On a tendance, Noémie de Grenier, à présenter l'auto-entrepreneuriat comme un aboutissement en oubliant peut-être tous ces aspects négatifs, au moins dans le discours politique.
Oui, moi je souscris complètement à l'analyse de Sarah Abdelnour. L'auto-entrepreneuriat est une catastrophe sur le plan social. Il n'y a pas d'autres mots. Ça ne veut pas dire que certains n'y trouvent pas à un moment une voie de sortie d'un salariat devenu insatisfaisant, etc. Mais ce qu'on s'emploie à dire et à montrer et à faire dans nos coopératives particulièrement depuis une vingtaine d'années, c'est de dire que il y a des formes de réinvention du salariat qui sont possibles. Et dans une coopérative comme Copanam, les gens arrivent avec une activité individuelle ou de petits groupes, viennent se salarier sur la base de leur chiffre d'affaires dans la coopérative, ils sont parfaitement autonomes et ils ont de multiples formes de solidarité avec les autres membres de la coopérative et avec l'ensemble du mouvement coopératif. Il me semble qu'il y a vraiment des choses à creuser hein, sur ces modèles-là. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est des formes de réappropriation de notre protection sociale. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent dans une coopérative, ils choisissent, ils auraient pu choisir un statut d'auto-entrepreneur, ils choisissent de venir cotiser au régime général, de partager donc une solidarité interprofessionnelle et nationale. Et quelque part, si on croise ça avec l'idée des communs, on se retrouve assez vite avec une utopie que je trouve assez séduisante de se dire et pourquoi on reviendrait pas aux racines de la sécurité sociale, je veux dire une grande caisse gérée par les travailleurs eux-mêmes dans laquelle on peut se protéger contre de multiples risques. Ces risques, ils ont évolué, il faut continuer à les faire évoluer. Je suis pas en train de prôner un retour en 46, mais de dire les principes de fonctionnement mutualiste sur lesquels sont fondés est fondée la sécurité sociale sont d'une modernité absolue à mon sens et permettent effectivement de couvrir des choses qu'on ne pourra jamais couvrir seul, les risques d'invalidité, de maladies professionnelles, d'accidents du travail, la question qui est présentée comme cruciale partout où on peut entendre des propositions de politique publique de la formation. Effectivement, Pierre Dardot a raison de le souligner, la question de la formation professionnelle dans des vies qui sont de plus en plus variées, on a de multiples vies professionnelles, on change de métier, on change d'entreprise, on change de statut, on a besoin d'être accompagné là-dedans, et à part des formes de mutualisation extrêmement larges, on n'a jamais trouvé rien de plus efficace, ni en termes de coûts de gestion, ni en termes de couverture des risques, que des systèmes de protection qui couvrent très largement l'ensemble des travailleurs.
Et alors la question, Pierre Dardot, c'est comment les travailleurs peuvent se réapproprier ce surplus permis par la dimension collective, dont parle notamment Proudhon, avant lui Marx. Et d'abord, quel est-il ce surplus, que l'on comprenne bien?
Le surplus, oui, c'est Proudhon qui parle beaucoup de la force collective en disant qu'elle est irréductible à l'addition ou à la somme des forces individuelles, ce en quoi je crois qu'il a tout à fait raison.
Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie qu'à partir du moment où vous avez une centaine de personnes qui travaillent à un projet commun, par exemple, vous avez une force collective qui se trouve générée par cette mise en commun des forces individuelles qui est supérieure à la somme des forces individuelles. Et c'est justement à partir de cette constatation ou de cette considération que Proudhon est amené à dénoncer ce qu'il appelle l'exploitation de la force collective en disant c'est le droit d'aubaine, le capitaliste s'arroge justement la propriété de cette force collective alors que c'est elle qui devrait être considérée comme étant la chose la plus importante et celle qui a la plus grande valeur. Voilà, donc c'est assez important. Moi je ne cherche pas du tout à opposer Proudhon à Marx parce que je crois que cette discussion-là est complètement dépassée, mais par contre il y a chez l'un et chez l'autre des réflexions qui peuvent peuvent nous orienter encore aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse, quoi.
Alors, comment faire émerger cet agir commun politique dans le travail salarié? Eh bien, cela passe d'abord par une reconstruction du collectif. Exemple avec la manufacture horlogère LIP de Besançon.
Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les LIP. Et nous, on criait non au démantèlement, non au licenciement. Mais ce qu'on disait aussi, c'était la façon dont on s'était organisé dans l'usine, la démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait. C'était LIP, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon. Ça, c'était vraiment formidable parce que les gens, ils avaient conscience d'être enfin quelque chose dans l'usine. Alors qu'avant, on sentait des numéros à nos établis. C'est tout, tu vois, les gens étaient vraiment heureux de pouvoir participer dans des commissions à des choses où on leur donnait la responsabilité. C'était tout ça qu'on expliquait à la population. Et on sentait vraiment qu'ils nous comprenaient, qu'ils avaient beaucoup de sympathie pour nous.
Dans votre commission d'ouvriers, c'est important. Parce que vous verrez qu'à travers la lutte que nous menons, c'est autre chose qu'une histoire de salaire, c'est une histoire d'hommes et sur le plan international. Donc, tout le monde au travail, et s'il y a des problèmes, il faut les exprimer au sein de votre sous-commission et au sein de la commission. Alors, bonne chance, allons-y tous.
Voilà un extrait du documentaire LIP ou le goût du collectif, présenté à Cannes en 1977. Alors, les salariés de l'entreprise menacés de fermeture avaient occupé leur atelier, poursuivi la production et organisé la vente de leurs montres. C'est cette expérience qui a véritablement popularisé l'idée d'autogestion. Noémie Degrenier.
Oui, c'est sûr que LIP, ça reste une référence pour toute une génération qui est un petit peu au-dessus de la mienne, mais que je partage.
Moi, par exemple.
Effectivement, mais on a aujourd'hui encore des entreprises emblématiques de ça. Hein, le mouvement qu'on menait les Fralib avec la construction de Scopti à côté d'Aubagne est un bon exemple du fait que ces idées, ces aspirations sont extrêmement vivantes. Et moi, je retrouve ce côté un peu euphorique de reprendre en fait le pouvoir et le contrôle sur une partie de sa vie qui est quand même extrêmement importante. C'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on apporte au monde aussi. Moi, quand je discute avec des gens qui sont dans la coopérative depuis quelques années ou qui viennent d'arriver, il y a réellement cette dimension-là, c'est-à-dire la formule que quelque part on promeut, qui est d'avoir à la fois une très grande autonomie dans le travail et en même temps de partager un outil commun qui est l'entreprise et qui est démocratique. On reconstruit du sens et on se reconstruit à un endroit, un pouvoir d'agir. On a aussi une réinvention à l'intérieur de ces expériences de nouveaux formats démocratiques, de nouvelles manières de s'exprimer, de décider ensemble dans les collectifs de production, à l'échelle de la coopérative elle-même. Il y a vraiment une vivacité extrêmement forte de ces idées-là. Et qui fait que c'est vraiment pas des idées datées, même si le documentaire a un petit goût des années 70. Quoi.
Cet enthousiasme, effectivement, on l'entend bien dans ce documentaire. Et ça a été vraiment un moment important dans l'histoire de l'autogestion, cette expérience LIP, Pierre Dardot.
Bah moi, je parlerai pour ma propre personne, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui appartiennent à ma génération, qui s'y retrouveront, dans la mesure où on a vibré, nous, à cette expérience-là. Il y avait une ferveur très grande autour de cette expérience, en effet, parce que, comme ça a été dit dans ce qui vient d'être diffusé, il y a une insistance, un accent mis sur l'auto-organisation. Voilà, c'est ce qui m'apparaît comme étant très très fort. Quelles que soient les formes ou les modalités de cette auto-organisation, ça peut prendre des formes extrêmement variées. Il n'est pas nécessaire que ce soit à chaque fois l'assemblée de tous les membres de l'entreprise qui décide souverainement jour après jour. On y passerait beaucoup de temps, mais ça peut prendre des formes extrêmement différenciées. Et je crois que c'est important à souligner. Sans ce sens-là, que ça n'est pas daté. Noémie a cité donc Fralib. En effet, il y a Viomé, une coopérative de production en Thessalonique, qui expérimente des formes aussi d'auto-organisation très intéressantes. Et surtout, ce qui me paraît très important, c'est qu'il n'y a pas de fermeture du groupe sur lui-même. Il y a une volonté, au contraire, de faire en sorte que les relations avec ce qu'on appelle l'extérieur fassent partie intégrante du fonctionnement de l'entreprise et de sa réflexion.
C'est l'idée de construire du collectif pour dépasser la fragilité inhérente au fait de développer seul son activité. Et cela passe notamment par le fait de faire circuler les compétences et d'organiser les solidarités quotidiennes. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement, Pierre Dardot ?
Je crois que Noémie serait plus mieux placée que moi pour répondre à cette question, mais en effet, je crois que c'est important. Les expressions que vous avez utilisées sont des expressions qui viennent d'ailleurs de l'article que vous avez écrit avec Laura Auffrère sur la circulation des compétences et tout. Ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Et dans l'article, il est question de deux aspects, le collectif et l'institution. Et je crois qu'en effet, il faut considérer les deux. Mais le collectif de travail a une très très grande importance.
La circulation des compétences et les solidarités quotidiennes, c'est au cœur du projet, Noémie de Grenier.
Oui, c'est vraiment au cœur du projet, que vous l'avez bien dit, je crois. Il faut qu'on arrive à dépasser nos propres limites et effectivement, le collectif permet ça. Alors le collectif pose aussi toute une série de questions et de problèmes à résoudre. C'est le propre après du travail de s'occuper de ce genre de choses.
Mais l'idée, je vous interromps, mais c'est aussi l'idée, ces solidarités, elles servent par exemple à soutenir les travailleurs s'ils décident par exemple de se mettre en retrait du collectif, là où ils pourraient en être exclus dans d'autres cas de figure. C'est très concret.
C'était c'était toute la réflexion qu'on avait eue avec effectivement Laura Auffrère sur ces questions-là de comment est-ce qu'on arrive à organiser des collectifs qui respectent aussi chaque personne à l'intérieur de ce collectif. Et du coup, on voit bien qu'on a dépassé aussi, on a expérimenté beaucoup de modèles qui reposaient sur le sacrifice de quelques-uns, sur une dimension avec un leadership très fort et une dimension sacrificielle, de se dire comment est-ce qu'on arrive à construire des collectifs. Alors, je veux pas opposer horizontalité et verticalité parce qu'il y a vraiment des formes beaucoup plus mixtes et beaucoup plus complexes que ça, mais comment est-ce qu'on arrive à s'organiser collectivement sans que les choses reposent sur une ou deux personnes, que ça permette aussi un équilibre de vie. On voit, là je reviens sur les problématiques du travail, mais on voit bien qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de vacances, qu'on a besoin parfois aussi de s'occuper d'autres choses, d'élever ses enfants, de s'occuper d'un problème dans son quartier, de s'occuper d'enjeux qui touchent pas forcément ceux du collectif de travail. On a besoin de cette diversité et du coup on a besoin de construire des collectifs de travail qui soient à la fois très solidaires et très souples.
Et c'est aussi l'idée que cela permet de l'invention scientifique et technique, de la créativité. Tous ces moments de liberté sont essentiels.
Moi, ça me semble évident que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de le faire avec les personnes qui sont réunies là, en général, on aime ce qu'on est en train de faire, on a un but commun, on voit ce que ça va apporter au monde. Ça rend très, très créatif.
Mais alors, s'adapter aux salariés, lui aménager des espaces de liberté, de créativité, c'est une idée qui a été reprise, alors détournée peut-être, vous allez me le dire, mais par le management de la Silicon Valley qui a mis en place cette culture de la décontraction. On fait une partie de ping-pong et une sieste avant de retourner travailler. Cette idée a été reprise, détournée. Pourquoi est-ce que elle ne pourrait pas fonctionner? Pourquoi est-ce que ce bonheur au travail vendu par les startups de la Silicon Valley ne fonctionne pas selon vous, Pierre Dardenne?
Alors, il n'y a pas que les startups de la Silicon Valley. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui intègrent à l'intérieur de leur propre fonctionnement des préoccupations relatives au bonheur ou au bien-être des salariés. Mais à ce moment-là, ça prend des formes assez curieuses qu'on retrouve aussi dans la Silicon Valley, c'est-à-dire des séances collectives de décontraction, choses comme ça qui relèvent presque à certains moments de loisirs organisés par l'entreprise, comme s'il y avait une incitation, voire une injonction à faire en sorte que justement on s'amuse. Mais Amazon, à cet égard, est aussi le modèle ou l'exemple de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'un sociologue, Jean-Pierre Durand, appelle une entreprise totale. Mais justement, il y a une différence entre l'articulation des différents temps de vie, dont parlait Noémie tout à l'heure, et puis d'autre part, le modèle ou l'exemple de l'entreprise totale. Alors là, qui fait froid dans le dos, hein. C'est-à-dire que on a des divertissements qui sont organisés par l'entreprise et qui concernent les salariés de l'entreprise. On a une légende selon laquelle chaque salarié participerait à l'histoire de l'entreprise et à son édification au même titre que le propriétaire de l'entreprise. Bon, c'est assez terrible. Donc ça n'a rien à voir. Parce que, par exemple, pour la loi El Khomri, on a eu une volonté, finalement, de consacrer l'emprise du chef d'entreprise sur le temps des salariés. C'est presque l'objectif, si on pousse la logique jusqu'au bout, c'est le contrôle par le capital. Excusez-moi d'employer un mot dont je considère qu'il a une signification pratique très précise encore aujourd'hui, mais c'est le contrôle de la totalité du temps de vie du salarié par l'entreprise ou le capital. Ça, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec l'articulation des différents temps de la vie dont parlait Noémie. Il faut bien que tout le monde comprenne cet enjeu-là, parce que sinon,
ma
c'est catastrophique,
c'est,
la confusion.
Est-ce que, justement, il n'y a pas une récupération par ce management de cette idée selon laquelle du temps personnel est un espace de créativité pour le salarié?
Si on nous récupère, c'est qu'on doit avoir raison. Et effectivement, on a entendu parler un peu de tout, hein, du management... Que vous décrivez, jusqu'aux entreprises libérées, etc. À partir du moment où il n'y a pas de partage de la valeur, à partir du moment où on est dans un régime de propriété extrêmement classique, on peut raconter tout ce qu'on veut, on est complètement à côté de ce qu'on est en train de se raconter, en se disant quel croisement entre le travail et les communs, et comment est-ce qu'on arrive à faire émerger un système qui va dans le sens de l'émancipation de chacun. Il me semble que la question qu'on doit réellement poser, c'est celle de formes de citoyenneté économique qui ont jamais été mises avec sérieux sur le tapis. Pourtant, on en parle depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et cette citoyenneté économique, elle viendrait, c'est-à-dire à l'intérieur des entreprises, hein, considérer que les gens sont des citoyens à tous les moments de leur vie et dans tous les espaces dans lesquels ils interviennent, et non pas seulement occasionnellement. Et ça viendrait aussi renouveler à l'échelle nationale et internationale des formes de démocratie dont on voit qu'elles n'arrivent plus à convaincre, justement parce qu'elles restent confinées à des sphères qui sont de plus en plus réduites.
Mais alors il y a une question qui se pose aussi, c'est la question de la responsabilité dans cette vision d'une répartition du travail et du management très horizontale au sein des collectifs de travail. Qui est responsable de quoi? Comment est-ce qu'on peut organiser une répartition des responsabilités si elles ne sont pas reconnues juridiquement, Noémie Degrenier?
Bah, c'est sûr que c'est une vraie difficulté puisqu'on est dans un système juridique qui veut voir qu'une seule tête, hein. Globalement, c'est pas très simple. Après, on a quand même, on oublie souvent de repenser qu'on a, on a quand même pas mal de formes juridiques à notre disposition, hein. Il n'y a pas que l'entreprise capitaliste. On a effectivement des formes coopératives qui permettent à la fois d'être déjà dans un au-delà de la propriété et de partager quelque part un outil de travail commun dans lequel on peut répartir les mandats, on peut les occuper collectivement. À Copanam, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Ça reste imparfait puisqu'on est dans un système qui ne nous ressemble pas. Pour autant, on peut quand même expérimenter. Dans le monde associatif, on a aussi énormément d'expérimentations de cet ordre-là. On arrive quand même, malgré un système normatif et extrêmement lourd, à bricoler dans les marges. Et c'est sans doute par là qu'on invente aussi les formes de travail de demain. Je ferai un parallèle avec le 19e siècle. Il n'y aurait pas eu la première caisse de solidarité ouvrière dans une usine à un moment. Il n'y aurait pas eu l'invention de la sécurité sociale après la guerre. Donc.
Pierre Dardot, est-ce qu'on n'assiste pas quand même, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une dilution de cette responsabilité dans ce fonctionnement?
Alors, dilution de la responsabilité, si c'est pour effectivement adopter comme règle que personne individuellement n'est responsable, ça risque en effet de produire ça. Mais je crois pas du tout que ce soit dans ce sens-là que s'expérimentent aujourd'hui des formes justement de travail qui s'orientent vers un objectif d'émancipation. Donc c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a en effet une diversité. Alors il y a un système juridique qui, dans sa logique globale, fonctionne de façon vraiment très massive en fonction de la logique de la propriété. Donc propriété étatique, propriété privée, etc. Mais il y a des choses qui s'expérimentent dans les interstices, comme dirait un sociologue américain, qui sont intéressantes puisque justement, finalement, c'est comme ça que s'invente un nouveau droit. Donc il ne faut pas considérer uniquement le système juridique clos tel qu'il existe aujourd'hui. Il faut considérer les formes de production d'un nouveau droit en gestation. Et c'est ce qui s'est passé au 19e siècle avec les caisses de secours mutuelles et d'autres expériences.
Then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking. So we're done talking. So let's connect minds. Past your bedtime and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed. You need to be stressed. Don't forget this, you're my apprentice. You need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching, and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together, living together, dying together. Working together, living together.
don't look good. And if you mess up, it's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me and I won't be happy. Tell you frankly, if I get cranky, then I'll give spankings. So no hanky-panky, you can't outflank me, you don't outrank me. Working together, living together, dying together. Kid, you're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless.
Vous écoutez France Culture? Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
C'était Working Together de Gonzalez. On est toujours avec Pierre Dardot, philosophe, essayiste, et Noémie Degrenier, co-directrice générale de la coopérative d'activité et d'emploi Coopanam. Faut-il repenser le travail comme un commun? C'est notre sujet aujourd'hui et je vous propose maintenant d'écouter l'avis de la sociologue Danielle Linhart.
Tout ce qui se joue avec les autres en termes de sociabilité, en termes de collectivisation, de la souffrance, c'est quelque chose de très très important comme collectivisation du plaisir. Et je pense qu'un des problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle dans le monde du travail, c'est précisément que cette capacité collective à gérer à la fois la souffrance comme le plaisir s'effiloche sous le coup des politiques managériales. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant à analyser parce que c'est aussi assez complexe. Ça va dans le sens d'une citoyenneté, c'est-à-dire que ça répond d'une certaine façon aux aspirations de la société, surtout des jeunes dans la société. L'idée qu'on puisse être soi-même reconnu en tant qu'individu, que personne, que l'on reconnaisse ce que vous êtes, ce que vous apportez, justement. Et le problème, c'est que, en même temps, que l'on cherche à promouvoir cette personne dans l'entreprise, on détruit ce qui lui permet de résister à la difficulté de la vie au travail, c'est-à-dire la dimension collective. Il se joue des choses extrêmement essentielles qui sont en train d'être mises en péril par ces politiques participatives, par ces politiques individualisantes. Et là, je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau sur le plan historique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire valoir à travers le concept tellement séduisant de citoyenneté la capacité de chacun à prendre sa place dans l'entreprise, en même temps que dans la réalité des faits, par les formes d'organisation du travail qui restent tayloriennes, qui restent encore coercitives, on ne lui en donne pas la possibilité. Donc on se trouve dans une situation extrêmement ambivalente, complexe, où les gens sont incités, sollicités pour donner d'eux-mêmes plus qu'auparavant, et ce sur un mode individuel, et en même temps n'y parviennent pas.
La sociologue Danielle Linhart, dans l'émission Questions d'époque sur France Culture en 98, elle évoque cette ambivalence du management qui met en péril la dimension collective qui est déjà présente en réalité dans l'entreprise privée classique. Et justement, est-ce qu'il ne faut pas retrouver cette dimension collective déjà présente, Pierre Dardot, présente mais combattue selon vous par le management néolibéral?
Oui, alors elle est présente dans la mesure où les gens qui travaillent dans un même lieu en général, sont amenés justement à échanger, à pratiquer donc une forme d'échange sur les enjeux, les buts, la question tout simplement de l'efficacité, la mise en commun d'un certain nombre d'efforts en vue d'un même projet. Donc tout ça relève d'une réalité, c'est pas du tout fantasmé. Par contre, ce qui n'est absolument pas reconnu par l'entreprise néolibérale, c'est justement l'importance à la fois matérielle, symbolique de cette réalité-là. Donc quand on parle en effet de faire de l'entreprise commune quelque chose qui aurait une réalité institutionnellement reconnue, l'entreprise, ça ne doit pas être compris. Il y a peut-être une ambivalence aussi dans la façon dont nous avons formulé les choses, mais quand on parle d'instituer l'entreprise commune, ça ne veut pas dire l'entreprise au sens de la forme instituée telle qu'elle existe aujourd'hui. Bien évidemment, ça n'aurait pas de sens. Hein. C'est pas l'entreprise au sens de la société détenue par des actionnaires, ça n'a strictement rien à voir. C'est l'entreprise au sens de l'activité commune, donc ce que l'agir commun, comme ça a été dit. Et donc c'est ça qui est important. Et en effet, c'est cette institution-là qui demande à être mise en œuvre. Donc il y a vraiment une accentuation à mettre sur cette dimension de l'agir commun, et pour nous, c'est l'essentiel. Donc il faut retourner, parce que le management néolibéral, il enferme les gens dans une contradiction qui est intenable. Jean-Pierre Durand parle de clivage à propos de la fabrique de l'homme nouveau dans son livre, et il a tout à fait raison, en ce sens que d'un côté, vous avez une demande managériale qui ne cesse de croître, avec des objectifs de plus en plus ambitieux, avec une injonction à l'autonomie adressée à chaque salarié individuel, et de l'autre côté, vous avez une réduction drastique des moyens matériels, des moyens qui sont mis à leur disposition, ce qui fait que on a en effet cette espèce de tiraillement, de tension absolument intenable, insupportable, et qui fait la réalité, malheureusement, de beaucoup de ceux qui travaillent.
Est-ce qu'il faut déjà voir un sens du commun dans l'entreprise privée, un sens du commun qui serait déjà présent, notamment dans le fait que beaucoup de travailleurs sont attachés à leur travail, car le travail, c'est l'activité par laquelle les individus se socialisent. Donc, on travaille aussi pour s'affirmer comme un membre à part entière d'une communauté. C'est ce que dit, par exemple, l'économiste Thomas Coutreau. Est-ce que pour vous aussi, ce commun est déjà, en quelque sorte, présent dans l'entreprise privée ?
Ah oui, je pense qu'il est présent. Il est présent à partir du moment où effectivement des gens travaillent ensemble, ils vont produire des choses et ils vont essayer de mettre du sens dans le travail en réalité. Et on le voit bien hein, sur, par exemple, le démantèlement des grands services publics a été l'occasion d'une crise de sens terrible hein, à La Poste, à France Télécom, etc. On voit bien que le fait d'avoir fait évoluer les modes de management et fait évoluer l'objet de l'entreprise a créé des malaises terribles. C'est-à-dire on construit du sens. Si derrière la structure de l'entreprise, le management, le régime de propriété viennent mettre des bâtons dans les roues à cette construction de sens, on se retrouve avec des problèmes extrêmement graves.
Alors justement, pour vous, donc la dimension sociale et collective du travail est à reconquérir. Comment faire de l'entreprise un bien commun ? Venons-en plus précisément à votre travail, Noémie Degrenier. Vous travaillez donc pour une coopérative d'activité et d'emploi. Alors, on a commencé déjà un peu à l'évoquer, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi la coopérative est une piste intéressante pour penser une alternative à l'entreprise, selon vous ? Et d'abord, en quoi consiste-t-elle ?
Alors, je le disais brièvement tout à l'heure, Copanam, c'est une entreprise qui est faite d'une multitude d'activités économiques portées par des personnes ou des petits groupes de personnes et par des enchevêtrements de projets, etc. Puisque quelque part, les gens arrivent avec un métier, un savoir-faire, un projet d'activité, viennent le développer dans la coopérative ou le reloger dans la coopérative s'ils l'ont déjà développé ailleurs. Effectivement, avec quelque part ce qu'on pourrait considérer comme une forme d'individualisation, c'est-à-dire que leur salaire va être déclenché par le chiffre d'affaires qu'ils apportent à l'intérieur de la coopérative.
Et alors, comment ça peut-être fournir des idées, fournir un modèle pour peut-être une généralisation ? C'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. Ça marche plus au niveau local que si on le généralise.
Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie impossibilité à généraliser des formes de travail autonome, libre et des formes de solidarité. En réalité, à chaque fois que quelque part l'étau se desserre un petit peu, on voit des gens qui sortent des modalités traditionnelles de travail, je pense au salariat mais aussi à l'auto-entrepreneuriat, pour aller construire des formes de travail en collectif, ils réinventent des possibles du travail. Après, il faut se rendre compte que dans cette réflexion, et ce qui est intéressant à Copanam, à croiser les métiers, les savoir-faire aussi, avoir cette forme d'entreprise qui mélange des cultures professionnelles et qui mélange plein d'aspirations différentes, c'est aussi que ce qui se passe, c'est aussi cette frontière entre vie privée, vie professionnelle, qu'est-ce que je produis, mais finalement, qu'est-ce que je produis aussi pour la société dans son ensemble, et pas seulement qu'est-ce qui me fait manger. Il y a du coup une production de commun qui est démultipliée à travers ça et une remise en cause de qu'est-ce que c'est que le travail? Et je crois que cette question-là aussi, il faut qu'elle soit à un moment mise au milieu de la table et réellement débattue et discutée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme étant du travail? Qu'est-ce qui doit rémunérer une personne? Comment est-ce possible que des gens qui, quelque part, sont des producteurs de biens communs incontestables dans le secteur associatif ou même dans le secteur, même dans l'entrepreneuriat, vivent finalement avec très peu parce qu'ils n'arrivent pas à se rémunérer sur leur activité?
Mais alors, comment expliquer l'essor modéré des coopératives? Il y a seulement un peu plus de 2000 scopes en France, qui représentent 45 000 salariés. Comment expliquer un si faible succès aujourd'hui, Noémie de Grenier?
C'est parce que c'est que le début. Non, c'est pas tout à fait le début, mais je veux dire, effectivement, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est assez largement minoritaire. Par contre, qui est, à mon avis, à la croisée des réflexions sur le travail, sur la démocratie, sur les nouvelles formes d'entreprise.
Parce qu'on parlait de LIP tout à l'heure, il faut quand même dire que l'entreprise a connu une triste fin, puisqu'elle a quand même été liquidée après, en 90, après 15 ans de lutte.
Oui, c'est sûr, le système va pas tout à fait dans notre sens, et il y a un certain nombre de vents contraires au développement des coopératives aujourd'hui, notamment parce qu'on parle de partager le pouvoir et la valeur. Et je suis pas sûre que ça aille tout à fait dans le même sens qu'un certain nombre de politique publique, etc.
C'est des blocages idéologiques, peut-être un manque d'information aussi.
Oui, c'est un peu tout ça. Je crois beaucoup qu'on gagnerait énormément à avoir, par exemple, un enseignement beaucoup plus pluraliste de l'économie, et aussi un enseignement sur tout ce qui est économique et juridique et autour de la protection sociale, beaucoup plus riche dès l'école, et en n'oubliant pas que le modèle dominant de l'entreprise n'est en réalité pas celle de l'entreprise du CAC 40. Je dirais tout un tissu de PME, de petites entreprises, de professions libérales, de coopératives d'activité, etc., qui dessinent un tissu de gens qui veulent vivre de leur métier, qui veulent effectivement produire des choses utiles, qui ont une conscience des enjeux de la transition écologique, qui ont une conscience des enjeux de société et qui travaillent dans ce sens-là. En réalité, effectivement, quand on prend le mouvement coopératif, on a un petit mot, mais si on élargit un petit peu le spectre, il y a quand même toute une frange de la société et de l'économie qui se penche sur ces questions. Et effectivement, c'est peut-être finalement la mèche qui va continuer à prendre.
Pierre Dardot, sur ce que nous apprennent ces scopes et sur leurs difficultés à se développer, à se mettre en place davantage.
Les difficultés, elles sont liées aussi à l'environnement social, hein, qui n'est pas particulièrement favorable. En général, il est même carrément hostile. Donc, quand je parle de l'environnement social, je parle des formes dominantes d'activité économique et de la pression exercée, par exemple, par le marché. Mais ça peut être également l'action de l'État, qui n'est pas nécessairement quelque chose d'incitatif et qui, souvent, apparaît comme étant aussi un obstacle. Donc, il faut voir, ça a été dit tout à l'heure, par référence au titre de l'ouvrage de Benoît Boritz, Au-delà de la propriété étatique et la propriété privée ont ceci de commun que justement sont deux formes de propriété qui sont exclusives par nature, c'est-à-dire que tous ceux qui ne font pas partie du groupe qui est concerné, justement, ne bénéficient pas des droits qui sont reconnus que à ceux qui justement appartiennent à un certain groupe constitué. Alors justement, ces coopératives ou ces formes d'expérimentation collective ont pour effet de desserrer cet étau et de donner à penser autre chose et de permettre aux gens de respirer aussi. Parce que il y a tout ça qui est en jeu. C'est pas simplement, encore une fois, le salaire qu'on reçoit à la fin du mois. C'est une activité qui va bien au-delà et qui concerne justement toute la société. Ça donne à voir. Voilà. On peut dire que ça préfigure. Ce sont des expérimentations qui sont fragiles, qui sont précaires, mais qui ont une force incroyable et une richesse incroyable parce qu'elles préfigurent ce que pourraient être des relations sociales débarrassées à la fois du poids de l'action contraignante de l'État et en même temps de la logique qui est celle de la propriété privée du marché.
Alors il y a une autre solution qui serait de faire évoluer la structure même de l'entreprise privée dans le sens des communs. Comment? On écoute le sociologue Thomas Coutreau.
Il faut prendre acte du fait que le travail aujourd'hui doit être posé comme une question politique. Et j'aime bien citer Joan Tronto, la philosophe féministe américaine, qui dit aujourd'hui l'éthique du care doit prendre le dessus sur la logique du profit. C'est quoi l'éthique du care? C'est l'idée que ce qui est fondamental du point de vue du travail aujourd'hui, c'est d'avoir un travail qui permette, comme elle dit, de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde. On a besoin d'une conception beaucoup plus, on appelle, holistique du travail, hein, où on définit une mission au travail, une mission à l'entreprise, une mission d'ordre sociétal, d'ordre écologique, qualitative, et on met en œuvre les compétences, les savoir-faire, la collaboration pour atteindre les objectifs et la mission de l'organisation ou de l'entreprise.
Le sociologue Thomas Coutreau dans l'émission Matière à penser, c'était le 20 juin dernier sur France Culture. Au-delà d'une organisation plus démocratique du travail, il faut intégrer, selon vous, les salariés dans les lieux de pouvoir de l'entreprise et notamment dans les conseils d'administration, Pierre Dardot.
Oui, alors la proposition de Thomas Coutreau, ça va bien au-delà, puisqu'il considère que c'est une forme d'autogouvernement citoyen qu'il faut réussir à introduire dans l'entreprise, qui implique pas simplement faire évoluer, mais changer de fond en comble et transformer radicalement le fonctionnement de l'entreprise et les rapports de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Mais ceci ne va pas sans une transformation parallèle des relations que l'entreprise entretient avec l'extérieur. C'est-à-dire les citoyens qui sont concernés directement par l'activité de l'entreprise, ou indirectement d'ailleurs, qui ne sont pas membres de l'entreprise, mais qui ont leur mot à dire sur la façon dont l'entreprise est amenée à organiser et à gérer sa propre activité.
Et donc l'idée, c'est de construire une nouvelle institution civique du marché qui rassemblerait à la fois l'autogouvernement des producteurs et en même temps qui inclurait les consommateurs. Il y aura aussi une souveraineté des consommateurs. L'idée de réinsérer comme ça le marché dans la société, c'est cela l'objectif, Noémie de Grenier.
Oui, il y a un vrai enjeu à se réapproprier tout ce qui est de l'ordre de l'économie. Hein, les consommateurs, les producteurs, souvent la même personne. Il y a quand même des choses à se réapproprier pour faire face à ces enjeux de transition écologique, de sens du travail et de la vie en général. Après, en bonne coopératrice issue du mouvement des coopératives de travail, j'ai aussi un attachement très fort à ce que chacun puisse avoir une sphère d'autonomie dans la définition de son propre travail. Il me semble que il faut qu'on arrive réellement à articuler des formes de pouvoir collectif des citoyens dans leur ensemble sur les grandes orientations économiques et sur les entreprises, pourquoi pas, mais tout en préservant l'autonomie des travailleurs quand ils sont dans l'exercice de leur travail.
Tout en préservant l'autonomie des travailleurs, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Il est 14h50 et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la bataille que mènent les salariés d'un McDonald's à Marseille.
Absolument, cela fait plus de 3 mois que les salariés du fast-food situé dans les quartiers nord de la ville se mobilisent pour empêcher la cession de leur restaurant à la société Ali Food, spécialisée dans la restauration halal asiatique. Le problème, c'est que cette cession ressemble fort à une manière déguisée de liquider l'activité du McDo marseillais. Celui-ci avait vu son chiffre d'affaires plonger suite au lancement de travaux dans le quartier bloquant l'accès des clients et entraînant plus de 3 millions d'euros de pertes depuis 2009. Mais pour les salariés du McDonald's Saint-Barthélemy, la vérité est ailleurs.
Il faut dire que le restaurant faisait figure d'exception dans le paysage du fast-food français.
Oui, car plusieurs salariés ont une véritable ancienneté, ce qui est très rare dans un secteur qui préfère multiplier les contrats précaires pour éviter évolution ou promotion salariale. Kamel Guémari, syndicaliste et fer de lance du mouvement, a ainsi plus de 20 ans de maison, ce qui lui a permis de gravir les échelons pour devenir directeur général adjoint du restaurant. Il a donc décidé de se battre aux côtés de ses collègues lorsque leur patron a décidé de se séparer de 6 de ses franchises, parmi lesquelles celle de Saint-Barthélemy. Les salariés du McDo soupçonnent en effet leur patron de vouloir se débarrasser de leur restaurant pour ne pas avoir à mettre en place un plan social. L'objectif étant, selon Kamel Guémari, de briser un bastion syndical pour pratiquer librement le dumping social.
Une opinion qui semble d'ailleurs partagée par la justice.
Oui, dans son ordonnance du vendredi 7 septembre, le tribunal de grande instance de Marseille a ainsi estimé que la société Ali Food présentait une insuffisance grossière et manifeste de moyens humains, financiers et matériels et ne disposait d'aucune expérience ou compétence dans le secteur en cause, ni dans aucun autre du reste. Il considère en outre que le projet de restauration halal asiatique, une nourriture particulièrement singulière selon les mots du tribunal, n'a aucune viabilité à brève ou moyenne échéance. Si on peut s'étonner de la véhémence de cette décision, elle confirme en réalité le caractère factice et même fictif du projet de reprise par la société Ali Food, confirmant les craintes des salariés de Saint-Barthélemy. Le tribunal marseillais a donc interdit cette cession sous peine d'une astreinte d'un demi-million d'euros.
Vous nous dites cependant que ce mouvement ne s'est pas arrêté aux frontières de la cité phocéenne.
Non, et c'est ce qui est passionnant avec cette affaire, c'est qu'au-delà du cas particulier des salariés de Saint-Barthélemy, les travailleurs de McDonald's en France ont souvent été en pointe des luttes sociales. Car avant et depuis Marseille, il y a eu notamment les McDo de Strasbourg-Saint-Denis et de Magenta à Paris. Alors qu'en 2003, le premier avait mené une lutte de près d'un an pour combattre un licenciement jugé abusif et des conditions de travail toujours plus précaires, le second s'était distingué en mai dernier par une occupation de plusieurs jours en solidarité justement avec les salariés marseillais, mais aussi pour dénoncer plus largement les piètres conditions de travail dans tous les McDo de France. Il faut dire que le système de franchise permet aux propriétaires de découper juridiquement leurs enseignes afin d'éviter toute obligation en matière de seuils sociaux, de comités d'entreprise ou de délégués du personnel. Or, sans délégués du personnel ni CE, il est très difficile de négocier des augmentations de salaire ou de meilleures conditions de travail. Sans parler des prouesses de McDonald's pour ne payer aucun impôt sur les restaurants franchisés. Alors, en pleine mobilisation étudiante et cheminote, le fast-food parisien était devenu un lieu de ralliement des différentes forces sociales, une place forte revendiquée de la convergence des luttes. Au slogan de « frites par frites, nous reprendrons le fric », le McDo de la gare de l'Est était ainsi devenu un épicentre contestataire au sein d'un des symboles absolus de la mondialisation et du capitalisme débridé.
Merci beaucoup Arjuna Andrade. Et aujourd'hui, comme un jeudi sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir notre partenaire d'Alternatives Économiques. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Et vous êtes venu avec le chiffre du jour, plus 11.
Oui, c'est plus 11 points. C'est la hausse de la part des dépenses publiques dans le PIB français sur les 40 dernières années. En 78, cette part était de 45%. Aujourd'hui, elle est de 56%. Pourtant, entre ces deux dates, la quasi-totalité des gouvernements qui se sont succédés ont dit vouloir baisser ces dépenses publiques. Et ce n'est pas d'ailleurs vraiment une question de droite ou de gauche. Depuis 78, la droite a été au pouvoir pendant 20 ans et la gauche pendant 20 ans. Mais c'est la droite qui a augmenté un peu plus les dépenses publiques que la gauche. Et même si le niveau global de ces dépenses est particulièrement élevé en France, notre pays n'est pas du tout une exception. L'ensemble des pays développés, ou non d'ailleurs, ont connu une évolution similaire. Et cela, bien que toute cette période ait été marquée par la domination incontestée de l'idéologie néolibérale initiée par Margaret Thatcher et Ronald Reagan au tournant des années 80.
Et alors comment peut-on expliquer un tel paradoxe, Guillaume ?
En fait, c'est assez simple. Nous vivons dans des économies de plus en plus compliquées, où la division du travail est de plus en plus poussée. Pour produire le moindre bien ou service, il faut mobiliser de plus en plus de personnes et d'organisations et les coordonner dans un monde où, en plus, il faut aussi être toujours plus rapide, plus réactif, où on fonctionne en juste à temps, etc. De plus en plus de contrats sont donc passés entre une multitude d'acteurs, de plus en plus de flux financiers sont échangés, etc. Une telle économie est en réalité de plus en plus fragile et soumise à tous les aléas climatiques, sociaux, bureaucratiques, financiers, etc. Une telle économie a en réalité de plus en plus besoin de ce qu'on appelle des biens publics, des choses qui doivent impérativement être présentes dans tout l'environnement pour que les affaires puissent fonctionner. Il faut de la sécurité des biens et des personnes, des systèmes de paiement sûrs, de la paix sociale, de l'électricité, des communications, des transports disponibles 7 jours sur 7, 365 jours par an, des tribunaux rapides et efficaces, un système de santé capable d'éviter les épidémies, une main-d'œuvre formée et à la page des dernières innovations, un environnement sain. On n'a jamais réussi à produire de tels biens publics sans avoir recours à des dépenses publiques. Et c'est pour cela que droite ou gauche, France ou États-Unis, celles-ci tendent à augmenter partout, malgré tous les discours contraires.
Nous allons donc tous vers le modèle soviétique.
Pas du tout. Pas du tout. Il règne une grande confusion sur ce sujet dans le débat public. La part du PIB consacrée à payer des employés du secteur public n'a pas bougé d'un iota entre 1978 et 2018. Il y a 40 ans, elle était de 12 points de PIB. Aujourd'hui, elle est toujours de 12 points de PIB. Les dépenses publiques sont constituées pour l'essentiel d'argent prélevé d'un côté pour être immédiatement redonné de l'autre à des agents privés, ménages ou entreprises, pour qu'ils puissent faire dans de meilleures conditions leurs affaires privées. Les dépenses publiques ne se développent pas aux dépens de l'économie privée, elles se développent parce qu'elles sont, et cela de plus en plus, la condition nécessaire pour le succès du privé. Et ceux qui veulent à tout prix les faire baisser handicapent en réalité l'activité économique. I got a silhouette, stupid clothes. I never wonder how I can arrange to do something. I always greet with the captain five, but I guess I'm in a meaningless and not a crazy enterprise. Hurry, hurry, I got a lot of new reason. Before the day they come, I have to leave my fake creation. I can be sure they are, but not on trees. Trying. I'm always free for a captain.
myself, he's walking away from me. Slow down, create a clean relation. Have a deeply come, I have to relieve my fake creation. I can be sure they are banana trees.
On écoute I Found a Job de Bikini Machine. Merci beaucoup Pierre Dardot, philosophe essayiste. Je rappelle votre livre Commun, essai sur la révolution du 21e siècle, publié à La Découverte. Et merci à vous, Noémie Degrenier, co-directrice générale de la coopérative d'activité et d'emploi Coopanam. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.